Le contenu de l'offre politique de ces élections, si je me situe dans la tradition de la Ve République, où pour moi les élections présidentielles étaient un moment privilégié, évidemment de la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le pays, mais dans une optique où étaient soulignés les grands enjeux historiques du pays. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement, si vous voulez, ce n'était pas les élections municipales, ce n'était pas les élections législatives dans une série de mesures, c'était comment, il y avait certes des grandes réformes, mais il y avait un débat sur la façon dont ces grandes réformes s'inséraient dans une vision historique. Donc la place, notamment de la France, dans ce qu'on appelle la mondialisation, dans l'Europe, etc. Ce à quoi j'ai assisté, pour moi en tout cas, c'est ma réaction tout à fait personnelle, j'ai trouvé que le débat politique n'était pas si formidable qu'on l'a dit. Il y avait beaucoup de mesures, il y a eu des débats intéressants sur une série de mesures et de propositions contradictoires qui ressemblaient plus, à mon avis, à des élections législatives, voire municipales, dans le détail des propositions des candidats qui sont allés très loin. Enfin bon, je ne vais pas commencer la polémique, mais on est allé jusqu'aux chiens, qu'est-ce qu'on fait avec les propriétaires de chiens méchants, enfin bon. Je sais qu'à chaque fois, il y a des tas d'associations qui font ça, mais là, on est poussé très loin dans le détail des propositions. Il fallait répondre à toutes les catégories au plus vite. Mais par contre, ce qui a, à mon avis, fait cruellement défaut, c'est l'insertion de tout ça dans la place de la France dans le monde, quoi. Et comment, finalement, on a cette vision. Et quand même, la tradition de la Ve République, c'était quand même encore un peu ça. Or, ce qui me frappe, c'est la juxtaposition de propositions multiples face à une France que je trouve morcelée. On répond différentes catégories, on essaie d'ailleurs d'oublier personne. Ce qui est dur, parce que les revendications devenant parcellisées, il faut vraiment combler tout le monde. Ou dire un discours adressé à chacun avec des communicants qui vont cibler comme on cible le marché, le produit, etc. Et d'autre part, un pathos. Je vais le développer, sentimental, absolument, à mon avis, inédit historiquement. Donc c'est ces deux choses qui m'ont marqué, plus que, une offre politique que je trouve passablement... Moi, j'étais frustré de grands débats politiques dans cette campagne. Il y a eu des affrontements, il y a eu des débats qui n'étaient pas inintéressants, mais ça manquait quand même de vision. Les questions internationales, excusez-moi, dans cette campagne, il n'y en a pas eu beaucoup, là. Il n'y a pas d'ouverture, quoi. C'est une France repliée sur elle-même qui discute de la mécanique, comment on va proposer telle chose. On n'a pas du tout cette vision. Bon, voilà un peu les deux remarques que je voulais faire. Alors donc, je suis loin, comme certains de mes amis intellectuels, d'y voir encore une fois une repolitisation. Je pense que les commentateurs sont allés un peu vite en disant que ça y est, la démocratie, finalement, on s'est trompé, se porte bien. Je suis plus pessimiste que ça. Alors... C'est la question d'abord de la souffrance qui était centrale dans cette campagne. Le peuple souffrant. Et les candidats, les deux candidats se sont présentés, les deux principaux candidats, je dirais deux mots sur Bayrou qui par moment n'a pas dérogé aussi, je crois que tout le monde a participé à cette chose-là, mais d'une façon, quand même les deux principaux candidats, à savoir Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, je pense que ça c'est vraiment des discours, j'allais dire, assez purs dans la compassion vis-à-vis du peuple souffrant, se présentant d'abord... comme des candidats du peuple souffrant. Alors il y a ce que j'ai appelé en plus de ça la démocratie participative et télévisuelle de la compassion. Parce qu'on a assisté à quelque chose d'assez nouveau. Dans les campagnes présidentielles, il y avait des grands débats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, minuté, etc. Bon, avec tout un rituel, bon, on peut en penser ce qu'on en veut. Mais là, il y a eu quelque chose de nouveau pour ces hommes politiques qui étaient dans un espèce d'amphithéâtre, je pense à l'émission de TF1, où tout le monde était en cercle. Ils se trouvaient au milieu et devaient, les animateurs, s'effacer. Et ils étaient là que pour passer les questions du peuple représenté un peu comme Sparte. Et on y allait joyeusement sur les hommes politiques. Alors là, on a quand même assisté à des scènes pareilles. Là, c'était, je prends France 2. Par exemple, c'était l'animatrice qui s'adresse à Sarkozy, qui dit « Écoutez, il y a un monsieur qui ne pouvait pas appeler ce soir. Il a 80 ans. Je vous lis. » Il nous a envoyé une lettre, il nous a demandé de poser la question. Il dit, si vous aviez 80 ans, une retraite de 1500 euros mensuels, et si vous deviez payer chaque mois pour votre conjoint placé depuis 10 ans dans une maison de soins longue durée, que feriez-vous ? Ben, je sais pas. Alors qu'est-ce que font les... Il y a eu plein de questions comme ça, mais du détail, c'était tout juste, bon, on avait droit à tout, quoi. Il y avait le vendeur radio-télé, IFI, l'handicapé, le retraité, le malade du cancer en recherche d'emploi, la famille, le représentant de la famille. La société morcelée était représentée. Et à chaque fois, poser sa question à l'homme politique, mais alors, quand on est un politique, je veux dire, faut quand même le faire, parce que c'est des questions complètement déconcertantes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, il y a une capacité, c'est toujours la même schéma. Écoutez, votre question est extrêmement courageuse. D'abord, merci de le dire. C'est vraiment... Premier moment, on compatit. Bon, c'est formidable. Deuxième moment, on essaie quand même, parce qu'en même temps, on n'a pas trop compris la question. Enfin, on essaie de voir et de chercher dans son programme ce qu'on va pouvoir ramener pour dire, mais voilà la réponse. C'était plus que pathétique. Enfin, on a atteint des choses très, très bizarres. Par exemple, excusez-moi, mais que dire de cette dame dont la sœur qui n'a, je cite, c'était direct, en direct, elle n'a plus de fonction motrice dans le cerveau, elle est quasiment devenue un peu une loque, et l'hôpital psychiatrique ne veut plus s'en occuper. Bon, qu'est-ce que vous répondez à un homme politique? Ou alors, mieux que ça, il y a une dame sans emploi qui se présente et qui dit « Voilà, je suis une dame sans emploi actuellement alcoolique abstinent, qui demande plus d'aide à l'État et que je suis complètement scandalisé parce que les bouteilles d'alcool en vente libre dépourvues d'étiquettes, pourquoi on ne met pas des étiquettes comme on met sur les paquets de cigarettes? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon, alors évidemment... L'homme ou la femme politique se croit obligé de répondre à ça, mais ils sont pris dans le piège hein, de cette essoreuse à idées, si je peux dire, c'est même pas des idées. C'est ce pathos contrebalancé par le discours de l'amour, c'est-à-dire à la souffrance, il y a on vous aime, mais on n'aime pas la France, une certaine idée de la France, on aime les individus, on vous aime. Hein. Alors le problème, évidemment, c'est comment on explique tout ça. D'abord, première remarque, c'est pas tout à fait nouveau. L'expression publique à la souffrance, a lieu tous les jours à la télévision. Écoutez, ouvrez une radio, vous allez voir les victimes, il y en a, mais c'est toutes les heures. Il y en a une ce soir, je ne sais pas quelle sera la dernière victime. Bon. Et c'est toujours la même chose, il y a des émissions spécialisées. Maintenant, on amène les enfants qui vont parler de leurs parents qui divorcent. Tout ça s'étale dans la télévision publique. C'est déjà présent dans la société. Avec d'ailleurs, on paye pour la redevance, pour ce genre d'émission, avec des espèces de battleurs de foire qui vous manipulent ça, etc. Ça existe dans la télévision publique. Bon, déjà, ça existe dans la société. Mais ça ne suffit pas. Bon, quand vous voyez aussi le fait, la façon dont on monte un certain nombre d'événements, par exemple, les sans-logis, juste avant les élections, d'ailleurs... C'est facile de filmer des gens sous les tentes au bord d'un quai, de prendre quelqu'un avec un bébé africain dans les bras et ensuite d'aller interpeller le politique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez discuter? Et en plus, on va valoriser un type d'association alors qu'il y a des tas d'associations qui travaillent sur le sujet, qui connaissent la complexité de ce qu'est l'exclusion, des mécanismes d'exclusion. Tout ça est hors champ. C'est hors champ, ils n'existent pas. C'est ceux qui sont mis en avant qui existent et c'est ceux qu'on va recevoir avec tapis rouge à l'Élysée. C'était avant les élections, ça, hein, n'oublions pas. Alors ce thème de la souffrance, savoir écouter la souffrance, je vous signale qu'avant d'entrer dans le champ politique, moi j'ai fait un papier qui s'appelle « Sur le harcèlement moral » ou « Dans le travail », la gauche est partie sur ce thème à fond, savoir écouter la souffrance est devenu un thème absolument clé. Et on est passé, ça c'est un des problèmes de fond, on pourra y revenir dans la discussion, dans les domaines de l'entreprise et du travail, une explication, une analyse en termes de conditions de travail, de conditions de management, de conditions objectives, de façon comment ça se passe, travaillons sur les conditions, à une lecture complètement psychologique des rapports de travail, en termes le harcèlement moral étant un des exemples de cette lecture, cette nouvelle lecture psychologisante par rapport à ce type d'analyse ancienne. Ça existait à ce moment-là. L'avantage, si vous voulez, du thème de la souffrance et de savoir écouter la souffrance qui maintenant est passée directement en politique, c'est que ça mélange tous les genres. Pourquoi? Parce que qui c'est qui souffre? Eh bien, il y a tout le monde. Il y a à la fois, c'est un thème fédérateur de situations et de mots de nature très différentes. Je prends par exemple, entre le chômeur, quand même un problème économique et social. Bon, je ne dis pas qu'il ne souffre pas, mais bon, il y a une situation. Et l'handicapé physique ou mental? Eh bien, toutes les deux, ils ont comme caractéristique d'être des victimes. Et toutes les deux, d'être unies par la souffrance. Mais enfin, excusez-moi, ce n'est pas du tout le même problème. Et le traitement n'est pas de même nature. Mais l'avantage, le fait de tout lire à travers ça, permet d'amalgamer des situations. Et c'est ce qui s'est passé dans la campagne. Parce que victime, c'était autant le monsieur atteint de maladie d'Alzheimer ou du cancer que le chômeur, celui qui est sans travail, que le jeune, tout ça a été mélangé. Et je ne parle pas des accidentés de la route. Hein. Alors, du côté, ça c'est du côté de la société, donc je dis c'est pas nouveau parce que ça fait déjà un moment qu'on le voit venir, si vous voulez. Du côté des politiques, moi je parlerai du déshonneur du politique, des hommes politiques là-dessus. Parce que bon, c'est vrai que bon, les hommes politiques, les candidats ne pouvaient pas échapper aux pressions. Je ne parlerai pas simplement de Nicolas Hulot quand on les a vus signer un grand papier avec les caméras. C'était un peu comme les fourches codines, quoi. Bon, regardez, vous. Bon. Mais passons, on peut rediscuter de ce point-là. À mon avis, c'est par exemple, une petite chose ne m'a pas échappé. Enfin, c'est un détail, vous me direz. Mais on a vu fleurir sur les murs de Paris quelque chose d'assez extraordinaire où il fallait que les candidats affichent leur solidarité avec les personnes malades du sida. Avec une grosse question très déconcertante, voteriez-vous pour moi si j'étais séropositif ? Bon, qu'est-ce que c'est que cette question ? Et ils sont tous y passés, sauf qui n'a pas accepté ? Arlette Laguiller, peut-être, oui. Mais alors, il y avait ces candidats. Écoutez, la question. Et alors, évidemment, vous ne pouvez pas être contre, parce que si vous dites, mais moi, je participe. Mais alors, vous n'êtes pas solidaire des victimes du sida. C'est tout. C'est ce système de chantage, si vous voulez, permanent, qui était. Notamment promue par la gauche morale, hein. Mais maintenant elle est générale, elle n'est pas qu'à gauche, je m'excuse, elle est aussi à pénétrer, à mon avis, largement partie à droite. Alors du côté des anciens présidents de la République, il faut tenir compte d'une chose toute bête, je vous rappellerai un fait. En 2002, Chirac a été élu triomphalement face à Jean-Marie Le Pen. Dans le discours de 14 juillet qui suit, il ouvre trois chantiers prioritaires, la lutte contre le cancer, la sécurité routière, les conditions des handicapés. Ce qui relevait antérieurement des ministres de la Santé, maintenant c'est le président de la République. Il y a quand même un changement, si vous voulez, un glissement qui s'est opéré. Bon, alors, il y a aussi des déclarations étranges, si vous voulez, les déclarations d'amour. Il y a quand même des paroles curieuses qu'on n'avait jamais entendues historiquement. Bon, je pense François Mitterrand en 1994, avec des paroles très énigmatiques. « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bon, » il va mourir, il ne va pas nous quitter. Je ne connais pas historiquement de président de la République ayant posé un peu ce problème en ces termes-là. Mais quand je prends Chirac, il y a une déclaration d'amour, très peu de temps d'ailleurs, avant les élections. Parce que ce n'est pas simplement la France. Hein. J'insiste beaucoup sur cette différence-là. On y reviendra. Ce sont les Français. Alors bon, c'est la dernière déclaration un peu solennelle. « Pas instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. » Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, ça, d'accord ? Cette France que j'aime autant que je vous aime. C'est la première fois, moi, que j'entends un discours où j'aime les Français. Ce n'est pas l'idée de la France. Je reviendrai à ce qui suppose de transcendance. On reviendra sur cette question. Alors, dernière question, je m'arrêterai là. L'énigme Sarkozy, j'en ai déjà un peu parlé. Pour moi, on a essayé de le caractériser. Bon, je n'ai pas du tout suivi Marianne sur le bonapartisme. Le danger, alors il y a soit le bonapartisme, soit le danger fasciste. Là, la gauche est incapable de voir qu'il y a du neuf. Elle ramène toujours le coup d'État permanent ou Bonaparte. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des petits aspects comme ça. Mais l'énigme Sarkozy consiste, à mon avis, qu'il ne correspond jamais, il n'est jamais là où on l'attend. Il n'est jamais dans un cadre. Il est toujours ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui déborde de l'étiquette. Alors comment comprendre ce phénomène ? C'est ça, moi, qui me fascine. Parce que dans ses discours, il sert tout le monde. Enfin, il y a Jaurès, il y a tout, donc il est à gauche. Il est partout, il n'oublie personne. L'histoire de France, il n'oublie rien. On n'est pas remonté à la préhistoire, mais on n'est pas loin. Il y a Clovis, il y a tout. Bon. Donc il est vraiment... Ça, je veux bien que ça soit Bonaparte, si vous voulez. Mais Bonaparte avait un sens historique, excusez-moi. Enfin bon, c'était quand même l'histoire en marche. Là, on n'est pas... Il n'y a pas... C'est pas ça. Alors, je pense... Bon, l'hypothèse que je pense... Que j'avance, c'est qu'il faut relier ce que j'appelle l'énigme Sarkozy, il faut la relier à une figure de l'individu dans la société qui me semble présent et que, d'une certaine façon, Sarkozy incarne, si vous voulez. Alors, quelle est cette figure ? Bon, il y a, à mon avis, deux choses. Il y a ce que j'appelle le patchwork. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Je prendrai simplement Cornelius Castoriadis, qui, justement, dans les années 80, dit « on voit quelque chose de nouveau apparaître. C'est l'individualité consiste désormais à piquer à droite et à gauche divers éléments pour produire quelque chose. L'individu de tous les jours vit en faisant des collages. Son individualité est un patchwork de collages. » Je pense que c'est pas... Alors, Sarkozy, on peut dire « oui, c'est de sa faute, etc. » Mais là, ça devient plus compliqué quand vous reliez ce qui nous est arrivé avec cette élection présidentielle à un état d'évolution de la société. Parce que ces individus... Je ne parle pas simplement des nouvelles générations. Le patchwork de collage, l'instrumentalisation généralisée de la culture bon, l'essoreuse Hallyday, hein, j'emploie le mot parce que c'est pas moi, c'est Raffarin, qui dans son livre parle, écoute, avec, il s'adresse à Sarkozy, ça s'appelle La dernière marche, c'est des conseils un peu comme le coach en management pour l'aider à franchir la dernière marche. La dernière marche, évidemment, c'est l'Élysée. Et il lui dit, mais avec toi, on a du mal à saisir des convictions idéologiques fortes, quoi. Et tu adores vivre dans une essoreuse Hallyday. Et je trouve que cette formule, à mon avis, est tout à fait révélatrice, pas simplement de Sarkozy, d'un fonctionnement médiatico-politique, si vous voulez. Hein. Alors, le patchwork comme nouvel ordre du temps, et je dirais un autre modèle qui est lié à ça, c'est le... Évidemment, c'est un avocat. Hein, donc, on prend dossier par dossier... Je crois que c'est Stéphane Rosès l'avait souligné, c'est pas la même culture qu'avant. Mais il y a une figure du manager dans le domaine de la performance. C'est-à-dire, il incarne une figure de la performance et de la réussite, et en même temps, c'est ça où c'est subtil, il est sentimental. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est à la fois l'image de la réussite et de la performance, et regardez-moi, vous comme moi, si, avec la volonté d'ailleurs, il n'y a pas de raison que vous n'y parveniez pas. C'est d'ailleurs, il faudrait réfléchir sur le passage de la promotion sociale au modèle de la réussite, et la télévision étant la rencontre de tous ceux qui ont réussi, hein. Que ce soit le coureur cycliste, le chanteur et l'homme politique, ça y est, quoi. Ils ont un commun, un point sur les plateaux de télé, ils ont réussi, avec des parcours complètement différents. On les met ensemble. Bon. Et c'est ce modèle de la réussite, en même temps fragile, c'est-à-dire comme tout le monde, et sentimental.